Chapitre 6e. Monsieur de Luxeuil, après le départ de son valet de chambre, dit à Tranquillin : « Pour revenir à notre entretien, mon cher, les écuries de cette maison et leurs dépendances sont tellement confortables, avantage presque introuvable à Paris, où les propriétaires lésinent toujours sur le terrain, tandis qu'au contraire, monsieur tandis que monsieur Wolfgang fait les choses en grand seigneur et en amateur, car il doit avoir ou avoir eu la passion des chevaux, sans quoi il n'eût pas fait construire de pareilles écuries. On y remarque une entente des moindres détails du service qui annonce une expérience consommée. Mon honoré maître a possédé les plus beaux chevaux du monde. En ce cas, c'est évidemment un homme comme il faut. Nous nous entendrons à merveille, et il m'accordera ce que je désire absolument, à savoir un bail d'au moins 9 ans. Monsieur, je lui paierai, s'il le veut, 1 année d'avance. « Monsieur, permettez, je... »« Ah, c'est que voyez-vous, moi, mon cher, je suis un homme d'ordre et parfaitement réglé. Je tiens mes livres de recettes et de dépenses par doigt et avoir. Oh, je n'ai rien de commun avec ces benêts qui mangent leur blé en herbe, se ruinent pour des drôlesses qui se moquent d'eux ou pour des parasites qui vivent à leur crochet. Je ne doute point, monsieur, que vous ne soyez le personnage ordonné que vous dites, mais mes revenus se montent à 53 700 francs sur lesquels... Bon an, mal an, je mets de côté 500 à 600 louis. L'épargne est, monsieur, une très sage coutume, mais il n'est personne de plus économe que moi. Ma toilette et mon écurie sont mon seul luxe. J'engage mes chevaux dans des courses dont je peux gagner le prix, mais je ne fais jamais de paris. Je n'ai de ma vie touché à une carte ni prêté un louis à quelqu'un. J'ai, entre autres, la réputation méritée d'être inflexible comme un roc au sujet de ces billets de loterie à 20 francs dont on est aujourd'hui poursuivi, et qui soutirent au niais 50 ou 60 louis par an. Or, savez-vous que c'est une somme, mon cher, 60 louis? Certainement, monsieur, c'est 1 200 francs, mais justement les gages de mon valet de chambre. Enfin, les femmes ne me coûtent rien, bien entendu. Je suis très sobre, je déjeune, comme vous voyez, 2 œufs frais et 1 tasse de thé. Je dîne à mon club pour 6 francs. Je suis donc ce qu'on appelle un jeune homme excessivement rangé. Je vous dis tout cela pour vous convaincre, mon cher, que votre maître ne peut trouver un locataire qui lui offre plus de garantie, plus de solvabilité que moi, et qui, après tout, fasse mieux honneur aux écuries de la maison par la beauté de ses chevaux, par l'élégance de ses attelages. Est-ce que cela n'est pas très à considérer? Certainement, mon honoré maître se félicite, se glorifie, de voir ses écuries si noblement occupées par un locataire qui... En ce cas, c'est convenu, mon cher, un bail de 9 ans, avec paiement 1 année d'avance, dont je déduirai l'escompte à 5%, ainsi que cela se pratique lors de tout paiement comptant. Monsieur, permettez... Oh, je connais les affaires, vous m'apporterez demain matin le projet de bail. Mais, monsieur, encore une fois, je l'examinerai attentivement, parce que, voyez-vous, mon cher, j'ai fait mon droit. Cela me procure l'avantage de n'être jamais dindonné. Donc, si le bail me semble bien et dûment libellé, je le recopierai tout entier de ma main. Vous n'aurez point cette peine, car ce n'est pas une peine, c'est une excellente précaution contre le danger de certaines clauses entortillées ou subreptices qui, trop souvent, vous échappent à la simple lecture des yeux, tandis qu'en recopiant le tout de sa main et à tête reposée, l'on n'est jamais dupe d'une surprise. Mon cher, à demain matin, à 10 heures. Pardon, monsieur, mais à 9 heures, si vous préférez. Ce n'est point de l'heure qu'il s'agit, monsieur, mais du bail. Je n'ai pouvoir ni de le conclure, ni même de le promettre. Il est indispensable que vous preniez la peine de vous entendre à ce sujet avec monsieur Wolfram. Eh, que ne disiez-vous cela tout de suite? Je verrai votre maître aujourd'hui même. C'est ce dont il osait se flatter, vu l'invitation que je suis chargé, monsieur, de vous faire de sa part. Une invitation, à quoi? À passer la soirée aujourd'hui chez lui. Chez monsieur Wolfgang. Et pourquoi diable veut-il que j'aille passer la soirée chez lui? Mais, monsieur, à seule fin d'avoir l'honneur de vous recevoir, ainsi que messieurs les autres locataires et mesdames les locatrices, invités pareillement. Ah! Fit monsieur de Luxeuil en songeant à la femme du libraire. « Ah, mesdames les locatrices seront aussi de la fête. »« Elles en seront le plus bel ornement, » répond Tranquillin avec un accent de courtoisie chevaleresque. « J'ai déjà la promesse de madame et de monsieur Lambert, le libraire, ainsi que celle de madame et de monsieur Borel, le banquier. Je me flatte d'obtenir aussi la promesse de mademoiselle Antonine Jourdan, locatrice du troisième étage. Et aussi la promesse de madame la duchesse della Sorga, qui occupe l'hôtel du jardin avec sa famille. Dites donc, mon cher, savez-vous qu'elle est jolie comme un ange, la petite femme du libraire ?
Fort jolie, en effet.
Et madame Lambert, monsieur, fort jolie, assurément. Où diable ce vieux hibou de libraire a-t-il déniché cette charmante créature ?
Révérence parlée, monsieur, le terme de vieux hibou me paraît...
Qu'est-ce que ce ménage-là ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous devez savoir cela, vous, mon cher. Allons, voyons, contez-moi la chose.
De vrai, je ne saurais, monsieur, rien du tout vous compter là-dessus, vu que j'en ignore absolument.
Bon, elle doit avoir un amant, cette petite femme-là.
Ah, monsieur, fi, fi !
Comment, fi ? Mais elle est ravissante, cette petite Lambert. Vous faites d'entrement le dégoûter, mon cher.
Ne prenons point la coupable liberté de me sentir ragoûté par la beauté de madame notre estimable locatrice, je ne saurais, a fortiori, faire le dégoûter.
Peste, vous êtes un fin logicien, mon cher.
Je hasarde ceci selon mon petit raisonnement.
Et qu'est-ce que cette mademoiselle Antonine Jourdan qui demeure au troisième ? Je l'ai rencontrée deux ou trois fois dans l'escalier. Elle m'a paru gentillette.
Mademoiselle, notre locatrice du troisième, est élève du conservatoire. Elle chante dans les concerts de salon. Aussi, M. Wolfgang espère-t-il qu'elle voudra bien se faire entendre ce soir chez lui.
Est-ce que c'est sage, cette chanteuse-là ?
Je me plais à croire, pour la dignité de la maison de mon honoré maître, que chacune de mesdames les locatrices en général, et Mademoiselle Antonine en particulier, offre l'exemple de toutes les vertus de leur sexe.
Ah ça, dites donc, mon cher, plaît-il, monsieur ?
Vous devez avoir concouru pour le prix Montyon, vous ?
En mon âme et conscience, monsieur, jamais.
Vraiment ?
Au grand jamais ?
C'est surprenant.
Il en est cependant, monsieur, ainsi que j'ai l'honneur de vous dire, et...
Tranquillin est interrompu par le bruit croissant d'une altercation élevée dans la pièce voisine entre le valet de chambre de monsieur de Luxeuil et une femme qui semble absolument vouloir forcer la consigne, ainsi que l'on peut juger par le dialogue que l'on entend du salon où se tiennent le jeune beau et Tranquillin.
J'assure à madame que monsieur est absent.
Ce n'est pas vrai. Le portier m'a dit que Luxeuil était chez lui.
Mais j'assure à madame que... Je me fiche pas mal de vos assurances. Je veux entrer, et foi de cri-cri, j'entrerai.
À ces mots, la portière du salon se soulève, et une très jeune et fort jolie femme, à la physionomie remarquablement effrontée, se précipite dans l'appartement et s'adressant impétueusement à monsieur de Luxeuil.
« As-tu me fait fermer la porte à moi, cri-cri, la troisième fois que je viens ici ?»«
Mais, ma chère,
et tu crois que ça va se passer en douceur ?»«
En vérité, mademoiselle, ce tapage est indécent, »
dit monsieur de Luxeuil, contraignant à peine son dépit.
« Il est inconcevable que vous prétendiez... »«
De quoi ? De quoi ? Ah ça, tu crois donc que lorsqu'on a pour amant de cœur un pingre de ton acabit, mademoiselle ?»«
Oui, un pingre. »
Est-ce que tu m'as seulement jamais offert un bouquet de 20 francs, un souper ou une loge de spectacle ?
C'est intolérable et je...
C'est donc bien le moins que je puisse te voir à ma guise et quand ça me passe par la tête.
Tenez, décidément, vous êtes folle, ma petite, dit M. de Luxeuil, s'efforçant de sourire, mais de plus en plus courroucé. Puis, faisant à Tranquillin signe de le suivre, en se dirigeant vers la pièce voisine, il dit à mademoiselle Cricri,
attendez-moi là.
T'attendre ? « Ah, c'est ce que je suis ta servante, dis donc ! Tiens, ne me pousse pas à bout, sinon je vais tout casser ici !»
Mademoiselle Cricri, voulant passer de la parole à l'action, court vers la cheminée afin d'y saisir une paire de pincettes à l'aide desquelles elle se propose d'instrumenter. Monsieur de Luxeuil, tremblant dans son avarice pour une magnifique garniture de porcelaine de Vieux-Sèvres dont est ornée la cheminée, et dont il serait obligé de payer les dégâts, s'élance vers mademoiselle Cricri afin de mettre obstacle à ses intentions dévastatrices. Et d'une voix suffoquée par le dépit et la colère, s'adressant à M. Tranquillin, en tâchant de prendre un ton plaisant,
« Avez-vous jamais vu pareil petit démon, hein, mon cher ? Vous direz à M. Wolfram que je le verrai ce soir chez lui et nous causerons du bail. »
« J'ai l'honneur d'être, monsieur et madame, votre très humble serviteur. » répond Tranquillin en saluant révérencieusement la compagnie et quittant le salon où il entend les éclats de voix de mademoiselle Cricri que monsieur de Luxeuil s'efforce d'apaiser en lui disant avec l'accent le plus caressant et le plus amoureux
Voyons, mon petit cri-cri chéri, calme-toi. Je te recevrai tant que tu voudras, mais pas de folie. Je suis logé ici en garni, et c'est moi qui paierai la casse, diable.